Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez.
Tous au poste.
Tous les postes de radio
sur Divergence FM.
Alors là, oui.
Tous au poste. Midi 13h.
17h, 18h. Agenda.
Nouveautés discographiques.
Interviews et informations internationales.
Tous au poste, tous au poste, tous au poste.
Je continue.
Je souffle du nez en même temps.
Glace entre chaque mot. Moi, je vais te rechigner.
Nous parlons tous de la logosphère.
Vous êtes
ici, si vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure.
Avec lui.
Avec moi,
c'est
citoyen de la logosphère.
C'est le mot que je cherchais.
La radio.
Autrement.
Encore plus intense, encore plus incisive.
Tous au poste.
La radio.
Vraiment. Pour tout le monde, comme la vie.
Tous au poste sur Divergence FM.
Et oui, bienvenue à vous, il est vendredi, nous sommes le vendredi 30 avril, il pleut, il fait gris, restez dans votre lit, si vous le pouvez bien sûr. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, Manuel Plaza derrière les petits boutons, Julia Chamaudon au micro, nous sommes partis pendant 50 minutes. Au programme de ce Tous au poste du jour, eh bien, nous allons parler de la situation des sans-papiers. Oui, alors qu'elle est souvent banalisée à travers des images plaquées sur TV, eh bien, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans l'humain et on va essayer de recevoir donc trois personnes sans-papiers, avec notamment la CIMAD, le comité de soutien aux sans-papiers. Et puis, je crois bien que c'est tout pour nos intervenants du jour. Ce sera de midi 20 jusqu'à midi, eh bien, jusqu'à 13h, voilà. Mais en attendant, eh bien, nous allons quand même vous dire nos petits bons plans, quoi faire, quoi voir alors qu'il pleut dehors. Et quelque chose qui redonnera peut-être du baume au cœur alors qu'il pleut, c'est un bal à boutonner avec Yeti et son quartet et son accordéon qui animera ce bal à partir de 19h30 sur la place Henri Krasuki. Et comme disait Coluche, Krasuki Kiki syndicat caca. Un petit tour du côté du soleil alors que la pluie ruisselle, c'est Zimaneya, un groupe montpelliérain de musique africaine composé de 9 musiciens d'origine congolaise. À 21h au Jam 100 rue Ferdinand de Lesseps, il vous en coûtera 5€ si vous détenez le pass culture ou 10€. Une soirée tout en jazz avec notamment le Harlem Fantasy Orchestra qui interprète les compositions de Duke Ellington. C'est à partir de 20h30 à l'Apollo Jazz Café, 129 avenue de Palavas, pour une petite entrée à 5€. Et puis jazz toujours avec 24 musiciens pour les 24 ans du Trinque Fougas. Le trompettiste Dominique Rieu réunit les musiciens qui y jouent régulièrement, à savoir Smokey, Joe Combo, Louise Martinez, Jen Mouleran, Machina Swing, etc., etc. C'est à partir de 21h30 au Trinque Fougas, route de Mende. Il vous en coûtera un supplément de 5€ par personne sur l'addition. Alors on fait un petit tour du côté de l'Inde, avec Indian Vibes. C'est le groupe Sapkush Milega que nous avons déjà reçu sur nos ondes. Une rencontre de 3 musiciens, d'une danseuse indienne de Bharatanatyam. Danse classique de l'Inde du Sud, je le rappelle, un buffet indien sera à disposition également. C'est des amis, ils sont sympas et c'est vraiment chouette ce qu'ils proposent. C'est à partir de 20h à la maison du quartier de Jean-Pierre Cayens, place de la Tibériade, quartier Tournesy. Les réservations sont obligatoires au 04 67 42 63 04. Je répète, 04 67 42 63 04. L'entrée est libre quant à elle. Si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus énervé, notamment d'électro, tiens, pourquoi pas, avec JSK Graphic, It's not a fake, it's a real party, nous dit-on. Exposition et musique électronique à 19h au Baloir, 21 boulevard Louis Blanc, avec une entrée à 5€ avec des tapas et 3€ sinon sans tapas, mais avec une boisson. Electro toujours avec Jungle Drum Breakbeat avec Sus Mon Beat. Un apéro également avec le groupe Accord Curry qui fait de la musique du monde, donc musique du monde et électro. C'est ce soir à partir de 18h au bar La Pleine Lune, 28 rue du Faubourg Figrolles. L'entrée est libre. Vous les connaissez peut-être, en tout cas, elle déménage, c'est Rosemary, un groupe de grunge punk de Chambéry, qui sera accompagné ce soir de Pedro de la Hoya, l'homme orchestre lyonnais, et de Scarlett, le groupe de rock italien. En tout cas, ça va, à mon avis, bien déménager à 20h30 au bar Up and Down 5 rue du Pilat Saint-Joly, c'est gratuit. Côté classique, eh bien, ce sera Chopin qui est à l'honneur avec un concert, nous dit-on, pédagogique. Et oui, on fait des concerts pédagogiques maintenant. Avec les pianistes Max Attat, qui a reçu le Grand Prix du Conservatoire d'Alger. Et Marc Morel, le premier prix du Conservatoire de Montpellier à 17 ans. Mais incroyable! Et puis les élèves de Géraldine Piombo, qui est professeure de piano à la maison de Cartier. C'est dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Frédéric Chopin. Et oui, il est né en 1810, il est mort en 1849. Et c'est à 18h30 à la maison de Cartier, Frédéric Chopin, tiens, un rue du Marché aux Bestiaux, quartier des Beaux-Arts, il ne vous en coûtera rien du tout. Danse avec du contemporain à 7, ce sont les Écailles de la mémoire, une chorégraphie de German Aconi et Jawol Willa Jozolar. C'est avec les compagnies Jambi du Sénégal et Urban Bush Woman qui nous vient tout droit des États-Unis. Regard croisé sur l'identité noire ce soir à 20h30 au Théâtre Molière, avenue Victor Hugo à 7. Côté théâtre, toujours une affiche assez fournie, bien sûr, c'est Les Justes, une pièce d'Albert Camus mise en scène par Stanislas Nordet, avec, vous le savez, Manuel Béard, Wajdi Mouawad et tout ça. C'est complet normalement, mais bon, vous pouvez toujours essayer de pleurer à l'entrée pour avoir une place. Nous sommes à Moscou en 1905, un attentat à la bombe a retenti contre le Grand-Duc, il a été préparé par le Parti Révolutionnaire. On y parle de terrorisme et de la légitimité du meurtre. C'est à 20h45 au Théâtre des 13 Vents à Grammont, avenue Albert Einstein, il vous en coûtera 14 ou 21 euros tout de même. Et puis on les recevait hier, c'est le festival Théa Vida qui poursuit sa course avec aujourd'hui l'automobile grise, du théâtre et du cinéma mise en scène par Claudio Valdés Curi de la compagnie Teatro de Ciertos Habitantes. C'est une réinterprétation du film Muet de Rinque Rosas commenté par trois femmes en direct. C'est à 21h au théâtre La Vista, 42 avenue de Craponne. Il vous en coûtera entre 5 et 10 euros. Et puis côté conférence, toujours le festival Théa Vida vous propose une conférence sur le thème « Comment les arts numériques peuvent traiter de la résistance ?» avec les artistes Lorena Zilleruelo et Mueguel Paraurrucia. Dans le cadre du festival Théa Vida, une rencontre entre les artistes et les festivaliers s'organise dès maintenant à midi. Donc si vous n'êtes pas loin de la salle de Guillaume de Nogaret, eh bien courez-y. Sinon c'est à 19h pour cette conférence. Salle Guillaume de Nogaret à l'espace Pito, l'entrée est libre. Un peu de poésie que diable avec soirée poésie vivante avec des textes d'Emilie Dickinson et Tahar Benjelloun. Et puis, ça sera suivi d'une scène ouverte. C'est où ? Eh bien, c'est à 18h30 à la librairie Le Globe, qu'on connaît bien puisque nous accueillons son tenant sur nos ondes. C'est bien sûr Monsieur Maguire. C'est 2 rue Carbonnerie, place du Marché aux Fleurs. À mon avis, c'est gratuit. Et puis côté livre, une rencontre sur le thème Ladakh, petit Tibet, terre d'éveil, avec Tashi Pounchok, docteur en philosophie bouddhiste, Francine Baraban, psychothérapeute, Caroline Barrel, ustache, guide de haute montagne, et Sylvie Crossman, auteur du livre Tibet, une histoire de la conscience. C'est organisé par la librairie Soramp, c'est à 19h à la salle Pétrarque, de place Pétrarque, l'entrée est libre. Voilà, c'est tout pour nos bons plans d'aujourd'hui. Mais oui, vous arriverez sûrement à sortir et à affronter la pluie, les mauvais temps, la grisaille, c'est sûr. En attendant, pour vous emmener dans des contrées lointaines, mais néanmoins et bien féerique, on va passer à la nouveauté de la semaine, Manu.
Tout à fait féerique, Julia, puisque on part dans plein de directions différentes avec ce trio cosmopolite Lonely Drifter Karen, composé d'une chanteuse autrichienne, d'un pianiste catalan et d'un batteur italien. Leur second album est dans les bacs depuis quelques jours à présent. Il s'intitule Fall of Spring. Il est sorti, comme le précédent, sur le label belge Cramed Discs. Ils étaient en concert cette semaine à Montpellier devant une salle pour le moins dépeuplée. C'est fort dommage. On va les écouter, on va en terminer aujourd'hui avec cet album de la semaine en écoutant le titre Wondrous Ways.
And so a wonderful took each other for a ride. I'd try to awaken. We had no place to go. My pony and yours, and the woods were so alive. Their blood was seething inside. so wonderful adventure begins. Took each other for a ride at a trot awaken. We had no place to go, my pony and you, and the woods were so alive.
Wondrous Ways par Lonely Drifter Karen, une Autrichienne, un Catalan, un Italien, a priori des gens qui font partie de l'espace Schengen et qui n'ont pas de problème pour circuler et pour travailler en Europe, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, comme on va le voir tout de suite dans Tous au Poste.
Tous au Poste, interview.
Et oui, en effet, l'espace Schengen est bien gentil par rapport à certains Européens et puis on rejette un petit peu d'autres, on va dire. Bien, pour commencer ce plateau, cette table ronde des sans-papiers, je suis en présence aujourd'hui de Frédéric Burguin-Kazi du collectif des comités de soutien aux sans-papiers et également de Abdelslam qui est lui-même sans-papiers et qui du coup peut nous raconter un petit peu bien son quotidien et ce qu'il vit, lui, avec cet handicap d'être sans-papiers en France aujourd'hui. À l'heure de la multiplication des procédures d'expulsion, hein, on voit la banalisation des traitements inhumains qui s'affichent sur la télévision. On voit des images de gens ligotés, bâillonnés lors de leur expulsion par charter. Et tout ça, finalement, passe de manière assez chronique sur la télévision en ce moment. On se demande finalement où est l'humain derrière ça et comment on arrive à traiter des gens sans vraiment les prendre en compte de manière personnelle, de manière humaine. Et c'est ça qui nous intéressait aujourd'hui dans ce Tous au Poste-là, c'est ça qui était intéressant de soulever. Donc avec vous, intéressant de se détacher de ces images-là notamment. Toi, Abdelslam, quelle est ton histoire? Quelles sont les raisons de ton arrivée en France? Comment ça s'est effectué, ce déplacement ici?
Bonjour tout le monde. C'est que j'ai arrivé j'ai avissé en France en 2003 et que j'ai rejoint dans mon père. Et que j'ai rejoint dans mon père et mes soeurs et frères ici. Comme la plupart de sans-papiers qu'on a sur la comité de Montpellier. Et la plupart de nous, c'est que je veux parler, on parle en général de tous les sans-papiers parce que la plupart de nous, c'est rejoint sa famille, soit son père, soit sa mère, soit ses frères et tout ça. Mmh. Et l'une des raisons où j'ai rentré en France, c'est de rejoindre mon père et qu'on est là tous depuis 2003.
Et ton père, il est arrivé en France, pourquoi ?
Et il est arrivé en France depuis 73, qu'il est en territoire français.
Et qu'est-ce qui l'a motivé à bouger en France ?
Bah, il vient de faire sa vie ici. Voilà. Il travaille à une entreprise de peinture. Il est bien, quoi.
Et c'était plus facile, du coup, de trouver peut-être des fonds financiers pour permettre de réaliser une entreprise ici en France ?
Bien sûr. Là, si tu travailles ici, l'un des raisons pour moi et pour les autres, c'est de venir en France. C'est parce que là, si vous aviez vos papiers, vous avez tout pour vivre, pour travailler. Le mot-clé, c'est une carte de séjour pour avoir du travail, pour monter une entreprise, pour tout. Quoi.
Et donc, c'est plus facile ici en France
de trouver vivre et de travailler pour la vieillesse. Et c'est l'un des plus réseaux qui m'a fait penser de venir rejoindre mon pays ici parce qu'on voit des gens là-bas, par exemple au Maroc, qui travaille tant quand il est fort et tant qu'il est en bonne santé, mais quand il va arriver il va vieillir, il n'y a pas de retraite ni rien du tout. Mmh. Là, si vous travaillez dans votre jeunesse, à la fin, vous toucherez la retraite et tout.
Oui, la question des retraites est un peu difficile en ce moment, mais oui. Mais oui. Et donc, quelles difficultés tu peux rencontrer, toi, pour t'intégrer au quotidien ? Comment ça se passe ?
Le problème, c'est le problème qu'on a maintenant, c'est très, 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 très grand pour s'intégrer. Si toujours, on a toujours la peur de sortir déjà. C'est pour arriver ici à ce studio-là.
C'est à la radio aujourd'hui.
À la radio aujourd'hui, c'était difficile. Je regarde toujours à côté de moi. Est-ce qu'il n'y a pas de la police ? Est-ce qu'il n'y a pas ? Toujours, il y a une histoire de police. On dirait qu'il y a un policier à côté de moi, toujours.
Tu te sens surveillé ?
Bien sûr, dès que je sors de la maison à mon objectif, toujours je pense à la police. De toute façon, on vit toujours sous la peur de la police.
Et t'es déjà arrivé de les croiser ou de discuter avec eux, tu vois ?
Ça fait 8 ans, depuis 2003, je t'ai interpellé une seule fois.
Ça fait 8 ans que tu es en France.
Ouais, 8 ans en France et une seule fois que j'étais interpellé, voilà. Et j'ai passé 5 jours sur un centre de rétention. C'était difficile, quoi.
Pourquoi ?
C'était difficile. Ni la police, on sait que c'est des fonctionnaires, ils sont dessous de la loi, mais dessus. Oui, on peut dire dessous de la loi, ils appliquent leur ce qu'ils disent
leurs règles, leur règlement.
Le règlement, mais des fois
ils dépassent un peu le règlement.
Et bien sûr, ils dépassent les règlements, quoi.
Comment, par exemple ?
Te parler fort, te prend comme on dirait que juste il y a pas de différence entre humains. Entre moi et lui, on est tous des humains, mais il me manque un quart de séjour pour être pareil que lui. Mmh. Il me prend comme un... Par exemple, il me prend comme un...
Moins que rien.
Voilà. Il te prend... Tu es sans valeur.
Voilà. Tu es sans valeur quand tu n'as pas de carte de séjour.
Voilà. Autrement, peut-être moi mieux que lui en niveau de caractère et tout. Je peux dire. Et oui, il te prend comme n'importe quoi et voilà.
Et donc, du coup, ça fait 8 ans que tu es en France. Est-ce que tu travailles en France ?
Oui, je travaille. Je suis à ce niveau-là. J'ai mes clients. J'ai tout ce qu'il faut. y a pas, à ce niveau-là, je n'ai pas de problème. C'est là où je pense, des fois, ce qui a perdu en ce moment-là, c'est l'État. Si j'ai une carte de séjour, je peux travailler en règle. Mmh. Et je paye, et je cotise, je paye mes, mes impôts et les charges aussi. Mmh. Mmh. Là, c'est l'État qui a perdu. De toute façon, parce que je suis là, je vais travailler. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis venu ici pour travailler. Je ne suis pas venu pour rester à la maison ou pour rester sous les bâtiments. Mmh. Donc, et je n'ai pas de problème à ce niveau-là. J'ai de promesses d'embauche, j'ai tout. C'est ce qu'il faut pour régler ma situation.
Tu as tout ce qu'il faut pour travailler, pour régler ta situation, mais pourtant, ça ne marche pas.
La préfecture, toujours, elle prend les choses. Par exemple, si je posais mon dossier, elle prend que les points faibles. Elle regarde que les points faibles. Elle ne regarde pas les points positifs.
Alors, c'est quoi les points faibles ?
Par exemple, vous avez toujours dit que vous n'avez pas rentré en visa, vous êtes rentré, tout ça.
Donc ils vont titiller sur des choses administratives,
voilà.
C'est ça ?
Ouais.
C'est une barrière.
Oui. Et là, je fais ma vie, je suis marié, j'ai un petit garçon, j'ai ma maison.
Travail.
Un travail, tout à fait normal.
Et alors, tu te confrontes à des barrières administratives, à la complexité administrative française. Est-ce qu'il y a aussi une barrière, je dirais, linguistique ou culturelle que tu ressens au quotidien ?
Le problème, c'est toujours d'avoir peur de la police. Ce qui nous coince de participer à des trucs.
De participer à des rassemblements culturels ou d'aller voir des spectacles,
voilà.
Etc.
Voilà. Toujours en peur de la police de participer. Par exemple, je vais aller à mission ou quelque chose, et toujours, c'est pas la peine, je vais rencontrer la police ou quelque chose, donc c'est pas la peine, c'est mieux de rester. C'est des trucs qui...
Tu vis caché alors ? Tu vis caché un peu ?
Et oui. Toujours, on était, je vais raconter une histoire, c'est qu'on était, quatre amis, toujours quand on se rencontre, on parle de la police. Ils ont interpellé quelqu'un, ils ont interpellé ce monsieur-là, vous le connaissez, oui, on a rencontré la police. Un jour, on est arrivé de dire, si qui va parler de la police, il va avoir une amende. Toujours on vit sur la peur de la police, on vit toujours sur la police. On est psychiatriquement foutu par la police.
Mmh. Et la police, si elle vous trouve, elle fait quoi ?
Normalement, elle va pas me faire cadeau.
Elle va pas te faire de cadeau, ça c'est sûr, mais elle va te faire quoi ? Elle va t'emmener en centre de rétention administratif ?
Centre de rétention, à la garde à vue, tel, et peut-être en expulsion et tout ça.
C'est violent ?
Bien sûr, c'est violent. C'est pas facile, c'est pas insupportable, quoi.
C'est pas supportable.
Oui.
C'est pas humain, on peut dire ça ?
Au niveau humanitaire, c'est pas humain.
C'est pas humain.
Et oui. Mmh. Ce que faisant, c'est pas humain. C'est la plupart d'entre nous, c'est quand on sépare une famille, on sépare l'un avec ses parents, et tout, c'est une humanité. Quoi.
Mmh. Il y a même des enfants d'ailleurs en centre de rétention administrative.
Oui, et en ce moment-là, il y a des enfants, il y a des familles.
Ouais.
C'est insupportable. Quoi.
Ils sont derrière des barreaux, quoi, des enfants.
Des enfants qui sont derrière les barreaux. Pourquoi on ne part pas à l'Espagne, on ne part pas à l'Italie, on choisit la France parce qu'il a une valeur, il a un poids très lourd au niveau, dans tout le monde. C'est la France, c'est l'égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Alors c'est la démocratie ici. C'est là où la plupart de nous choisit la France.
Mmh.
C'est toutes nos rêves d'avoir d'être libre, d'être en égalité, égaux, d'être tout ça. C'est l'un des.
Voilà, mais pour être considéré citoyen, il faut avoir une carte de séjour.
Ouais.
C'est ça.
Sinon, sans carte de séjour, c'est.
On n'est rien.
On n'est rien et la plupart de par exemple, je me rappelle plus l'un de la plupart du gouvernement, il ne prend des délinquants.
Comme si vous aviez fait une faute.
On est des délinquants, on est des voyous, et la plupart, et d'ici, je vous rassure, sur Montpellier, là, les 80 dossiers qu'on a sur la comité, là, où la plupart des sans-papiers, ils sont des gens qui ont peur de sortir de leur maison, qui va aller faire des, c'est pas des casseurs, c'est pas des voyous, c'est pas, s'il y a 0,099 des casseurs de sans-papiers, ils nous prennent tous des casseurs et des voyous et des délinquants. C'est franchement.
C'est pas vivable.
Vivable, c'est, ouais, c'est pas vivable.
Et tes enfants, du coup, eux, ils vont à l'école, ils sont scolarisés?
Non, mon petit, il a que 9 mois. Et ça fait 2 ans et demi que je suis marié, tranquille.
Et donc lui, il est né en France.
Oui, il est né en France.
Il a le droit alors à la nationalité française?
Oui, quand il aura 13 ans, il a le droit à la nationalité française. Et il a le droit aussi à son père.
Hein? Tout le monde y a droit. L'accès justement dans ton quotidien, qu'est-ce que tu peux rencontrer comme difficulté malgré la police au niveau des papiers, au niveau de l'accès, je sais pas moi, on parlait tout à l'heure de lieux culturels ou des lieux sociaux pour te rendre chez le médecin ou des choses comme ça, comment ça se passe?
C'est comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est sans carte de séjour, c'est toujours des difficultés. Là, par exemple, il y en a des gens qui rencontrent des problèmes qui ne peuvent pas avoir l'assurance maladie, qui ne peuvent pas. Voilà, c'est pas facile. C'est pas du tout facile.
Et du coup, tu fais comment pour te soigner ou...
C'est du secret, quoi.
C'est du secret. D'accord, on va garder le secret alors. Quel peut être le rôle des comités de soutien à ce moment-là? Je m'adresse à toi, Frédéric. Puisque tu représentes le collectif des comités de soutien aux sans-papiers, quel est son rôle pour accompagner justement ces sans-papiers-là dans leur quotidien?
Eh bien, bonjour à toutes et tous. Eh bien, notre rôle, il est double en gros. Il est d'abord d'informer les personnes sur leurs droits et de les aider à bien construire leur dossier et leur demande de régularisation, hein, pour se mettre dans les règles. Hein. Comme le disait Abdeslam, il faut avoir cette carte pour être bien considéré, pour pouvoir vivre normalement en France. Et puis le deuxième rôle aussi, c'est leur faire prendre conscience de la solidarité nécessaire qu'il faut ressentir entre eux et puis entre nous aussi, hein, puisqu'ils vivent en France pour l'instant, ou pour toujours. Hein. Mmh. Et donc du coup, l'idée, c'est aussi de les sensibiliser et de leur faire prendre conscience des valeurs que nous portons, nous en France, enfin en tout cas que nous, là, présents, portons. On n'est pas sûr que d'autres personnes, notamment à la préfecture et au gouvernement, les défendent, même si des fois ils disent qu'ils les portent, de solidarité, de fraternité, de liberté, d'égalité. Donc toutes ces valeurs, eh bien, on fait en sorte aussi de travailler dessus, d'en discuter. Et donc on fait beaucoup de réunions où on se partage, effectivement, chaque réunion se partage en deux temps. Un premier temps, eh bien, de discussion autour de ce qu'on va faire ensemble, de pourquoi on le fait ensemble, de qu'est-ce que c'est que cette solidarité qu'on a ensemble, où on va ensemble, toujours ensemble. Hein. Et puis la deuxième partie de construction des dossiers, de voir un peu quel type de pièce est nécessaire pour plaire à la préfecture, enfin en tout cas pour faire un dossier convenable pour la préfecture.
Il y a beaucoup de dossiers qui sont rejetés.
Alors, d'après les statistiques qui nous sont fournies officielles, hein, il y a entre 20% et 30% des dossiers qui sont régularisés sur des demandes individuelles. Hein. Donc, du coup, nous, on défend une procédure collective, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'au niveau individuel, pourquoi il y a autant de rejets, c'est-à-dire à peu près 70% à 80% de rejets. C'est parce que les personnes ne sont pas forcément informées sur ce qu'il faut mettre dans les dossiers. On ne leur explique pas. Leur français n'est pas forcément très poussé, même si elles parlent français, administrativement, on le voit même avec des Français de souche, entre guillemets, hein, les rouages administratifs ne sont pas forcément faciles à comprendre.
C'est complexe.
Donc tout ça fait qu'au bout, les dossiers ne sont pas forcément comme il faut. Et ensuite, il y a une stratégie de la préfecture, qui est une stratégie parfois inconsciente, hein, de faire en sorte, comme l'a dit Abdeslam tout à l'heure, de mettre en avant les points faibles, les points négatifs du dossier, Vous avez encore de la famille dans votre pays d'origine, pourquoi vous ne rentrez pas au pays, etc. Vous voyez, tout ça fait que les demandes sont rejetées dans leur très grande majorité. Alors que dans une procédure collective qu'on essaye de mettre en place, outre le fait de mettre en avant cette solidarité entre nous et d'amener les gens à aller sur le chemin de la citoyenneté et de l'intégration, dans cette procédure collective, au-delà de ça, on fait en sorte que les gens aient une pleine connaissance de leurs droits et puissent compléter leur dossier comme il faut. Et ensuite, on fait en sorte que leurs droits soient respectés. Et c'est là un truc très important. On le voit pour des Français aussi. Les droits ne sont pas forcément respectés dans les administrations lorsqu'on est face à une personne derrière son bureau qui se croit des fois tout permis et qui ne respecte pas elle-même les droits des personnes.
Ouais, c'est tout un travail. C'est un travail d'éducation aussi.
C'est un travail d'éducation. Donc on a essayé de faire un peu d'éducation à la République lorsqu'on a rencontré le nouveau directeur adjoint du préfet la semaine dernière, enfin le 14 avril, donc c'était il y a deux semaines. Donc oui, on a essayé de lui rappeler quels sont les principes de la République et que ça serait bien de les respecter et d'intégrer les gens qui sont en France. En particulier parce que les gens, en tout cas que nous on défend dans ce collectif, il y a 80 dossiers, ils sont là en moyenne depuis 8 ans. Donc en fait c'est la moyenne, donc Abdeslam a dit sa période, ça correspond à la moyenne de période de résidence sur le pays. Donc il y en a qui sont là depuis 20 ans, qui sont sans papier toujours, il y en a qui sont là depuis 2-3 ans, voilà.
Oui, je me rappelle, il y a un acharnement administratif contre Mohamed El Yagoubi, qui était en France depuis 20 ans, qui était toujours sans papier, qui lui fait partie de la région Languedoc-Roussillon, alors que ça fait 20 ans qu'il travaille ici en France. Quoi.
Voilà. Il y a cette procédure, il y a cette logique qui fait que, comme l'a très bien dit aussi Abdeslam, dans le vécu quotidien, d'amener les gens à repartir. Bon, c'est la logique du chiffre, c'est-à-dire faire le plus d'expulsions possible pour justifier auprès de l'électorat de droite et d'extrême droite que le gouvernement fait son travail, qu'il n'y a pas d'immigration, etc., etc., qu'il y a une immigration choisie par ailleurs, ce qui est totalement faux, puisqu'on sait très bien que l'immigration a toujours existé dans l'histoire, et notamment dans l'histoire française. Donc on est, je crois, d'après les statistiques, le deuxième pays d'immigration au monde, après les États-Unis. Et donc du coup, tous ces gens qui viennent en France, avec tous ces relents anti-immigrés qui se développent depuis un certain nombre d'années.
Nationalistes,
et avec la crise en plus qui se rajoute là-dessus, le gouvernement donne un peu du grain à moudre en disant nous expulsons.
Une pause musicale pour prendre un petit peu de temps avant d'enchaîner sur ce plateau sans papier.
Je suis un sans-papier, expulsez-moi. Je suis un ouvrier, expulsez-moi. Je suis comme le vent, expulsez-moi. J'ai la rage aux dents, expulsez-moi. Je parle tout haut, expulsez-moi. Je siffle faux, expulsez-moi. Il paraît que chez toi, expulsez-moi. Ouverts sont les bras, expulsez-moi. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Moins on est mieux, je me porte. Non, ne frappe pas à ma porte. Je suis un oublié, expulsez-moi. Je ne fais que passer, expulsez-moi. Sur mon tapis volant, expulsez-moi. Je n'ai pas 10 ans, expulsez-moi. Quand les bouches du métro, expulsez-moi. Fourmissent des troupeaux, expulsez-moi. Il était une fois, expulsez-moi. Chez toi, c'est chez moi. Moins on est mieux, je me porte. On ne frappe pas à ma porte. Moins on est mieux, je me porte. On ne frappe pas à ma porte. Yahoozi, Bora Bora. Hey, parce que c'est comme ça. Je t'invite chez moi, quand il y aura plus que toi, je m'excuserai. Excusez-moi, 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 un son lieu, je me porte.
Eh bien oui, vous entrez tout de suite dans le plateau des sans-papiers, c'est le bruit de la porte. C'est la deuxième partie de ce plateau, on écoutait Expulsez-moi des têtes raides. On est en présence eh bien, d'Abdelslam qui est sans-papiers et puis de Frédéric Burguin-Casi qui représente le collectif des comités de soutien aux sans-papiers. Et on parle aujourd'hui eh bien, peut-être de la nécessité d'une politique européenne de l'immigration puisque l'immigration s'effectue dans tout l'ensemble européen. On les voit transiter par l'Espagne, l'Italie, etc. par exemple. À quand une coordination européenne des comités de soutien, par exemple, Frédéric ?
Alors, donc, eh bien, en fait, pour l'instant, au niveau de cette coordination, il y a des contacts au niveau transnationaux, au niveau transnational, je veux dire, avec des actions comme No Border, qui s'organisent dans différents pays d'Europe. Donc, l'année dernière et cette année, il y a eu des actions No Border qui se sont produites au niveau de Calais, avec la jonction, vous savez, avec le regroupement des sans-papiers au niveau de Calais pour franchir la frontière pour aller en Angleterre. Donc, l'idée, c'est effectivement de regrouper des gens qui sont actifs dans les différents pays européens pour agir contre les politiques répressives dans les différents pays européens. Mais la difficulté, c'est que, à ma connaissance, donc à vérifier bien entendu, il n'y a pas de regroupement des associations ou des coordinations ou des collectifs qui pourraient, au niveau européen, faire du lobbying et faire de la pression sur les politiques européennes. Et c'est là qu'on en arrive, bien sûr, à la politique européenne en la matière, donc en matière d'immigration et de flux migratoires. Et donc la politique européenne, pour l'instant, elle est dirigée elle est impulsée, on va dire, par les gouvernements qui sont majoritaires en ce moment en Europe, c'est-à-dire des gouvernements plutôt de droite et plutôt opposés aux flux migratoires, ou en tout cas qui ne prennent pas en compte l'évolution démographique qui se produit en Europe en ce moment et qui va faire qu'il y aura de plus en plus de besoins de travailleurs en Europe, puisque de plus en plus de personnes vont, avec l'âge, vont partir à la retraite. Et donc, on est dans une période un peu étrange où on a des besoins, mais face à la situation de crise et de chômage, les gouvernements ne prennent pas la mesure de ce qui va nous arriver dans le futur. Et donc, ils ne préparent pas la situation de manière à ce qu'il y ait une bonne intégration de ces millions de personnes qu'on va devoir accueillir d'ici 50 ans.
Ce qui occasionne des dérives assez folles. On se rappelle d'ailleurs que le seul exemple médiatisé d'une coopération européenne fut celle du charter Londres-Paris-Kaboul qui expulsa beaucoup d'Afghans. Et puis également dans le Tarn, là, il y a un mineur de 16 ans qui a subi une procédure d'expulsion car le préfet n'atteste pas de la validité de ses papiers d'origine. Et donc le préfet a décidé de réaliser un test osseux pour déterminer l'âge de la personne. Ce qui est aberrant ici, c'est qu'on se rend compte que il y a peut-être un besoin d'harmonisation de la législation européenne par rapport à l'identité d'origine de la personne afin d'éviter des situations arbitraires telles que celle-ci, quoi.
Bien, en fait, comme les administrations des différents pays demandent dans leur procédure des documents officiels, et que dans les pays d'origine, que ce soit les pays du Maghreb, quoique c'est un peu moins vrai pour ces pays-là, mais en tout cas les pays d'Afrique subsaharienne et d'autres pays en guerre notamment, les papiers officiels parfois ont été laissés dans le pays d'origine. Donc il n'est pas simple de prouver son âge. Donc il y a une procédure légale, d'après ce que j'ai compris, qui amène effectivement à vérifier d'un point de vue génétique l'âge des personnes lorsqu'il y a un doute sur le fait que la personne est mineure ou pas, puisque les mineurs, de par les conventions internationales, sont protégés. Et donc jusqu'à 18 ans, les pays sont obligés de les accueillir. Par contre, à 18 ans, ils les expulsent. Donc, d'où l'idée de prouver que la personne n'avait pas 16 ans, mais 18 ans, de manière à pouvoir l'expulser.
Et je rappelle que les tests osseux ne sont pas très sûrs, d'après les scientifiques, en tout cas les médecins, entre 16 et 18 ans. Donc, ça promet bien de larges dérives à venir. On se demanderait si la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une institution au-dessus des querelles partisanes, au-dessus des nations, elle ne pourrait pas garantir le respect de ces procédures-là. On ne pourrait pas éviter ces dérives.
Et oui, mais on se retrouve dans la même situation qu'on voyait tout à l'heure, puisque là, on était au niveau local, au niveau de la préfecture de Montpellier, et il est déjà déjà pas aisé de faire reconnaître ses droits au niveau de la préfecture de Montpellier. Qu'est-ce qu'il en est de monter jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, donc à Strasbourg, et de faire reconnaître ses droits, sachant que cette Cour européenne intervient qu'en quatrième instance, c'est-à-dire une fois que le tribunal de première instance, cour d'appel et cour de cassation ou conseil d'État se sont prononcés. Donc il faut faire tout ce cheminement-là pour un sans-papier. Donc je pense que les raisons sont là.
Et puis il a le temps de se faire incarcérer entre-temps, il n'y a pas de problème pour ça.
De se faire expulser et parfois de se faire tuer en arrivant directement sur l'asphalte de l'aéroport de son pays d'origine, comme ça a pu se passer avec certaines personnes expulsées de France vers leur pays en guerre.
Et du coup, à ce moment-là, est-ce que la solution ne serait pas de créer une institution qui serait, alors si c'est pas la Cour européenne, je sais pas, d'en créer une autre qui serait vraiment au-dessus des pays, de leur politique, pour réussir à gérer cette politique-là d'immigration?
Alors, je vais dire mon sentiment là-dessus. D'abord, c'est une histoire de citoyen. C'est une première chose. Alors, le fait que l'Union européenne ait évolué vers une structure bureaucratique qui ne prend pas suffisamment en compte, même si elle le fait quand même, hein, mais ne prend pas suffisamment en compte tous les droits des citoyens vivant sur le sol européen, les citoyens devraient mettre la pression, devraient insister, devraient voter pour les gens, devraient se présenter eux-mêmes de manière à ce que les structures européennes évoluent vers justement des structures plus protectrices des droits humains. Et puis ensuite, c'est tout en fait. Il n'y a que cette action-là qui serait favorable à l'évolution des droits. Alors après, il y a des associations qui siègent notamment au niveau de l'ONU, hein, à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, qui font pression, mais après on se trouve confronté au niveau international à la situation des pays où il y a des dictatures, où les dictateurs, où les... de tous ordres, hein, font pression pour que justement il n'y ait pas d'évolution des droits dans leur propre pays d'origine. Parce que l'émigration n'est pas vraiment voulue à la base. Comme l'a dit Abdeslam est venu en France, bon, d'abord pour rejoindre son père qui travaille en France, mais aussi pour mieux vivre en France.
Pour mieux vivre, et en plus, par exemple, moi et la plupart des gens de la comité, de son papier, on est tous la plupart de... centre au Sahara du Maroc. On n'a pas du travail là-bas. Et la plupart de nous, on est des immigrés vers le nord du Maroc. On rentre pas chez nous par un an. Donc, et on est tous dans les... Si on va être des immigrés chez nous, c'est mieux d'aller, on va trouver mieux.
Ouais, un peu plus loin,
Peu plus loin, et c'est mieux. Si on est déjà des immigrés au Maroc ou à l'Algérie, donc c'est mieux d'aller être immigré en France où vous auriez vos droits ou ce qu'on a imaginé, c'est la France, c'est liberté, c'est l'égalité, c'est fraternité, tout ça.
Effectivement, l'idée, c'est qu'il faut aider et soutenir dans les pays d'origine, outre le développement économique, hein, bien entendu, mais aussi le développement des droits humains, de manière à ce que les personnes qui sont là-bas puissent vivre mieux là-bas et ne soient pas contraintes de devoir choisir, entre guillemets, hein, l'émigration, puisque l'émigration, c'est dangereux. On peut mourir dans la traversée, hein. Ouais. On peut être tué par la police, il peut y avoir plein de choses, hein, qui se passent, donc c'est un processus qui est dangereux. On abandonne peut-être une partie de sa famille, même s'il y a une grande partie de sa famille qui est déjà en France. Donc c'est tout un processus qui, pour un peu défaire les a priori hein, sur les flux migratoires, hein, c'est un processus qui n'est pas simple et qui demande aux personnes de s'arracher hein, de leur pays, donc la migration, de s'arracher de leur pays. Et donc si on pouvait faire en sorte que dans leur pays d'origine, ils aient tout ce qu'il faut, ils n'auraient pas besoin de venir ici.
Ça, c'est sûr.
Donc il faudrait aller reprendre le problème à la base, finalement.
Oui.
Oui.
On va se quitter puisque l'heure tourne et qu'il est déjà bien tard. Merci beaucoup à vous deux d'être intervenus dans le cadre de cette table ronde sans papier. Merci à toi Abdelslam, merci à vous.
Merci Julia, merci Divergence.
Et puis eh bien, on va se retrouver dans un mois pareil pour une table ronde sans papier avec, je l'espère, bien la CIMAD également, rendez-vous, etc. Et puis merci beaucoup à vous et eh bien bon courage pour la suite, c'est ce que je peux vous souhaiter. Et puis beaucoup d'espoir aussi.
Merci beaucoup Julia et merci à la Radio Divergence et à tous qui nous entendent.
Et merci à vous tous. Bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangster rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui boit. Dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu. Et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui. Et ça pleure au fond de lui. Faut rien dire et tout est dit. Et soudain il se fait... Derviche tourneur, il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin il hurle comme un fakir, de la vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin je t'aime à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent, ils veulent être or puisqu'ils sont cuivres. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. Détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves, même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance, il dit ramons tous à la même cadence. Dans le bar, y'a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou. Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse, qui le démontait pièce par pièce. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui enfin voit la lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Maintenant il pleure de joie, souffle et se rassoit. Désormais l'amour seul sur lui a des droits. Sur le détroit de Gibraltar, un jeune noir prend ses valises, sort du piano bar, échange ses quelques devises. Encore gros d'émotion, il regarde derrière lui et embarque sur le bateau. Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue vers le Maroc tout proche. Vogue vers ce Maroc qui fera de lui un homme sur le détroit de Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc sur le détroit de Gibraltar. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc.
C'est la fin de cette édition de Tous au poste. Julia Chamaudon, Anel Plaza vous remercie. Louis aussi. La suite des programmes sur le 93.9, c'est d'ici une vingtaine de minutes une nouvelle chronique cinéma proposée par Vincent Pourageau comme chaque semaine, Cinextenso. Et puis le retour de Lawrence McGuire, c'était la semaine dernière, et bien il revient en deuxième semaine, figurez-vous, à 13h30 pour son émission The Globe. Cuisine et décadence, pas des padances, ce sera et bien à 16h45 comme chaque jour, Radio Homicide. À 16h59 et puis la rediffusion de Tous au poste à 17h10 comme chaque jour. Ce sera suivi de l'émission Le Zinc proposée comme chaque semaine par Marie-Pierre Soriano et puis un peu de reggae pour suivre. Ce sera peut-être Zion Land, une rediffusion de l'émission de la semaine dernière, pourquoi pas. Suivi d'Explicite Musique à 20h30. Et puis vous retrouverez évidemment, comme chaque semaine, la mixtape avec notre ami Mounir à partir de 22h30. C'est écrit en tout petit, figurez-vous. Voilà, et puis on terminera comme ça, je crois.